temps des copains, l'émission des années 60.
Salut les copains
sur RVE.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
Dans l'esprit de guerre, donne-moi la main. Ouais.
RVE, il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, nous sommes la première génération à savoir que nous détruisons le monde. Extinction des feux pour éviter l'extinction des espèces. Hier soir, entre 20h30 et 21h30, de l'Opéra de Sydney à la Tour Eiffel, en passant par l'Acropole, la Place Rouge ou l'Empire State Building, dans plus de 180 pays, on a plongé dans l'obscurité à la demande de l'ONG écologiste WWF pour la 13e édition de l'opération L'Heure pour la Terre. Selon le dernier rapport de cette organisation, de 1970 à 2014, les populations de vertébrés ont chuté de 60% au niveau mondial et de 89% dans les tropiques. On y voit plus clair dans l'obscurité. On rallume la lumière sur les gilets jaunes dont la 20e journée de mobilisation a presque été une routine. On attendait le pire. À Bordeaux par exemple, il n'en fut rien. Pas de grande foule non plus. 33 700 personnes sont le chiffre de Beauvau, toujours aussi contesté par le pointage du nombre jaune qui a recensé 127 000 participants. Même à Paris, seulement 32 personnes ont été interpellées, 21 verbalisées sur le périmètre interdit. Seule réelle tension en fin de journée du côté du Trocadéro et rien sur les Champs-Élysées. Ce qui a permis au Premier ministre Édouard Philippe de rendre une petite visite à Nathalie Loiseau, la tête de liste de la majorité LREM Modem aux Européennes. Elle donnait son premier meeting hier à Aubervilliers, au Doc de Paris. Et dans une belle envolée lyrique, l'ex-ministre des Affaires Européennes, ne craignant pas les jeux de mots, a appelé à ce que l'Europe prenne son envol. Devant 3000 participants, elle a fustigé les nationalismes et défendu l'écologie. La Slovaquie a élu une femme à la tête du pays, comme prévu, compte tenu de sa forte avance au premier tour de la présidentielle. L'avocate libérale et écolo Susana Kaputova, novice en politique, mais portée par un mouvement national de protestation contre la corruption, a gagné haut la main en obtenant 58,3% des voix. Et ils avaient des ballons ronds, vive la Bretagne. Ils avaient des ballons ronds, mais ça n'a pas fait gagner les Bretons. Guingamp s'est incliné après les prolongations et par 4 tirs au but à 1 face aux Strasbourgeois hier en finale de la Coupe de la Ligue. Il s'agitait de la 3e victoire historique des Alsaciens. Bonne journée.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Eh ben oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, il est bien 10h02, nous sommes bien revenus à l'heure d'été, alors on va profiter justement de cette belle journée qui s'annonce, pour marquer un petit peu une trêve dans une actu particulièrement riche et dense en matière de sport dans notre région, on va parler du sport vintage, à travers notamment le foot, hein, puisqu'on a quelques représentants ce matin qui sont là, dans notre studio, pour nous rappeler un peu leurs souvenirs d'amoureux du foot, du sport en général, et puis surtout ce qui les a accompagnés durant toute leur existence et toute leur vie. On va commencer avec celui qui vibre actuellement pour le Stade de Reims, qui a vibré aussi durant son enfance. Il doit être ravi, il espère une Coupe d'Europe, c'est notre ami Jean-Pierre Vaquez. Bonjour Jean-Pierre,
bonjour,
comment ça va?
Bonjour à tous.
Oui, il faut venir avec le maillot Rémois, Jean-Pierre.
Je ne l'ai pas encore.
Oui, pas encore.
Je pense que je l'achèterai le mois prochain. À la rentrée prochaine plutôt. Ouais. Et donc je vais parler du Stade de Reims. Je suis un amoureux du club.
D'accord. Depuis combien de temps?
Depuis mes 10 ans, depuis 1958, en pleine Coupe d'Europe. Quoi, donc.
Ok, allez, on a aussi un ch'ti, ou un chi, comme on dit, chez l'Orgy. Ouais, mais non, je sais bien, je fais exprès, je voulais prendre l'accent. Donc c'est notre ami Jean-Pierre Alençois. Salut Jean-Pierre.
Bonjour, le ch'ti de service, Jean-Pierre.
Ouais. Lens qui a accompagné une grosse partie de votre vie, je suppose.
Tout à fait, puisque j'ai joué à Lens pendant toutes les années des jeunes, avec des sélections différentes. Après, pour des raisons physiques, arrivé en senior, quand on commençait à jouer en nocturne, les projecteurs me gênaient, donc j'ai dû partir. Mais c'est toute ma vie, c'est toute la vie d'une région, c'est toute la vie de mes parents et tout ça.
Ouais. On va en parler. Il est vert de cœur, c'est notre ami Bruno Pascaud. Salut Bruno, ça va? Toi, les verts qui t'ont accompagné aussi une grosse partie de ta vie et qui continue.
Alors, bonjour à vous tous, bonjour Philippe. Oui, effectivement, cette émission vintage, alors moi déjà, je la dédie essentiellement au club de mon enfance qui était le SBF, club de Brissouforges, bien sûr. Hein. Et puis les Verts qui ont accompagné et bercé ma jeunesse depuis 76 et cette fameuse finale à Glasgow. Oui, effectivement, un peu de nostalgie et je tiens essentiellement à dédicacer à l'idole que j'avais quand j'avais 10 ans, Nourdine Boubaker, qui était un joueur de l'ESBF en 70 et qui, pour moi, je voyais que ses chaussures, hein, c'était des chaussures Puma, marron avec des bandes oranges, et j'ai rencontré son frère récemment et effectivement, c'est des souvenirs qui sont remontés à la surface. Voilà.
Alors vous êtes tous auditeurs de Trimille Sport, on va le rappeler, hein, et puis naturellement, ce matin, pour vous récompenser de votre fidélité, on a décidé de remonter le temps. Justement, il a gagné la Coupe de l'Essonne. C'est notre ami Kader. Bonjour Kader, on parlait de l'ESBF, hein, l'entente de Bouisseau-Forges. Vous avez gagné en 1971 la Coupe de l'Essonne.
Oui. Ouais. Exactement. Bon. Et tout à fait. Bonjour, messieurs.
Oui, bonjour. Bon. Alors, comme on dit, vous l'emporterez dans votre tombe. Hein.
Ah oui.
Hein, ça c'est des souvenirs qu'on n'enlève pas. Hein.
Ouais. C'était une vie vraiment chahutée parce que j'étais jeune et puis et beau.
Et beau, c'est ce que j'allais dire.
Ouais. Exactement. Donc de toute façon, j'ai gagné la Coupe de l'Essonne avec Bouisseau-Forges.
Ouais.
Et puis j'étais en demi-finale. En demi-finale contre Viry-Châtillon.
Oui, alors, on en reparlera, parce qu'on va remonter le contexte. Ouais. Bouisseau-Forges, c'est un tout petit village, quand même. Ville, il faut remonter tout le contexte. Quand même.
Ah oui, hein? c'est une petite ville, sympathique.
À l'époque, oui. Je pense qu'à l'époque, il devait y avoir 800 habitants à Bouisseau-Forges.
Tout à fait.
Il n'était pas tout à fait à 1000 habitants quand l'ESBF a gagné la Coupe de l'Essonne.
Non, exactement, c'était 800 et quelques habitants.
Alors, naturellement, on va remonter tout ça tout au long de cette année. Puis je voulais vous dire qu'on aura un petit rendez-vous golf à 10h30 avec Fabien Donovan. C'est son anniversaire aujourd'hui, donc on a accepté de le prendre au téléphone. Mais lui aussi, je pense, qui vient aussi du foot, aura des choses à nous dire sur le plan de son passé et de sa culture sportive. Allez, on commence avec... Allez, on va commencer le Stade de Reims.
Bien sûr.
Jean-Pierre, ça arrive comment, cette passion?
Cette passion... Bah écoute, c'est dans les...
En écoutant Transistor.
Pas trop à l'époque, mais mon père était un grand supporter du Stade de Reims.
Oui.
Et à l'époque, le Stade de Reims c'était l'équipe chouchou du public parisien. C'était en pleine Coupe d'Europe. J'avais 10 ans. Il a commencé à m'emmener au parc. Et puis j'ai jamais quitté.
C'était l'ancien parc des Princes.
L'ancien parc des Princes, à l'époque. Dans les années 58, 60, dans les années 60. Et depuis, j'ai jamais quitté le Stade de Reims. Ça a toujours été mon club, même après le. Il y a eu un dépôt de bilan au Stade de Reims, mais j'ai continué à les suivre et il remonte petit à petit la pente.
Alors, cette passion, elle s'est traduite comment pour le Stade de Reims? C'est-à-dire que toute votre vie, ça vous a emmené, Jean-Pierre, toutes ces valeurs rémoises, ça vous a suivi?
C'est
important.
Non, mais c'est un club que je suis depuis les années 58, que j'ai jamais perdu de vue, que j'ai suivi même à l'époque où ils jouaient en division d'honneur, puisqu'ils sont descendus en division d'honneur. Et puis j'allais même les voir souvent au stade Auguste Delaune à Reims.
D'accord. Ouais.
Et puis j'ai même à l'époque on m'a pris un peu pour un agent. J'avais un collègue de bureau qui travaillait à la cantine de ma boîte, qui avait son fils qui sortait du centre de formation de Strasbourg. Et donc je l'ai pistonné à Reims et puis il me prenait un peu pour un agent là-bas parce que j'étais quasiment toutes les semaines au club à Reims. Et puis voilà quoi. Donc après il est parti, il a voulu quitter Reims et puis il est parti vers d'autres aventures quoi.
Oui. Cette passion s'est traduite par les maillots, le port des maillots, acheter les maillots, tout ce qui concernait Reims, toutes les magazines, non.
Je suis pas trop
les posters, non.
Je suis pas dans ce style-là.
À l'époque, pas trop, mais enfin. Bon.
Ouais, non. Mais j'ai simplement un fagnon dans ma voiture. Voilà. Le fagnon du Stade de Reims, j'avais un autocollant derrière à Reims, mais sinon de ce côté-là non, pas trop quoi.
D'accord. Alors Copa Fontaine, naturellement, c'est des grands noms. On a eu l'occasion de les rencontrer et d'ailleurs on voulait avoir une pensée pour Raymond Copin, hein, qui était venu d'ailleurs sur Rambouillet il y a quelques années. Il faut quand même pour tous les jeunes qui nous écoutent dire ils ont marqué l'histoire du football. À l'époque, il n'y avait pas tout ce côté médiatisé. Hein,
c'est un club mythique.
Hein, c'était l'équivalent de Zidane et de Platini.
Voilà, c'est un club mythique. Et puis, on voit bien, d'ailleurs, parce que avec l'actuel classement du club de Champenois, on voit bien que les médias sont tous en ce moment. Il y a des reportages partout sur le stade de Reims. Et croyez-moi, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler. Mais l'équipe là qui tourne en ce moment dans le championnat 18-19, année 18-19, à mon avis, c'est un club en devenir.
Oui, voilà. Il faut espérer qu'il y ait une finale PSG Lyon pour vous.
En Coupe de France, bah, hein. Ouais,
enfin, ça, hein. Ça donne la possibilité aux cinquièmes de jouer une Europa League.
Mais ils sont quand même sixièmes, donc oui, avec Saint-Etienne. Et ils sont pas loin de la Coupe. Bon, j'y crois pas trop, mais enfin bon, ils ont quand même. Donc, c'est leur 13e match sans défaite depuis le début de la saison. Ils ont leur 2e clean sheet, et disons, donc, ils ont fait des matchs sans prendre de but. Et puis ils ont surtout une pépite, à mon avis, dont vous allez on va en entendre parler. J'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs.
Alors les joueurs, il y avait Coppa, il y avait Fontaine, mais il y en a d'autres qui vous ont marqué, peut-être un joueur plus qu'un autre.
Ouais, il y a eu Akesbi qui est passé par Reims. Il y a eu Glovaki, il y a eu Rusticelli qui venait de Nice.
Dominique Rusticelli.
Et puis après il y a eu Olivier Létang, le patron maintenant du Stade Rennais. Il y a eu des grands joueurs. Hein. Il y a eu Sylvain Didot, le frère d'Étienne. Mm-hmm. Non, il y a vraiment des bons joueurs.
Et l'Argentin Carlos Bianchi.
Et Bianchi.
Oui.
Alors, et l'araignée.
Plus tard, hein.
Et l'araignée. Et l'araignée. César l'araignée.
Beaucoup plus tard, mais ça.
C'est
Bianchi,
beaucoup plus tard. Ça.
Et puis.
C'est dans les années 80. En fait.
Et puis il y a eu Robert Pires aussi.
Et il y a eu Robert Pires que Reims a formé d'ailleurs.
Oui.
Voilà.
Oui. Mm-hmm.
Et là, le club actuel a un très bon centre de formation. Ils ont un des plus beaux centres de vie du championnat de France. Et je voudrais vous parler, donc, si je peux le permettre.
Vous êtes là pour ça, Jean-Pierre,
de l'équipe de cette année, c'est qu'il y a une pépite, retenez bien ce nom. Il est kosovar, il s'appelle Arbel Zeneli. Mmh. Il est arrivé au mercato d'hiver, c'est-à-dire qu'il est arrivé fin janvier. Il en est déjà à 3 passes décisives et à 2 buts. Et là, ils ont joué pendant la trêve internationale, il a joué avec le Kosovo contre la Bulgarie. Il a marqué un but fantastique et à mon avis, on va entendre parler de ce joueur très rapidement.
Jean-Pierre, il y a des clubs de supporters du Stade de Reims un peu partout,
surtout un peu partout,
aussi
un peu
dans
partout.
Notre région.
Ouais, un peu partout et il y en a à Paris, mm-hmm. Tenu par un Breton, mais en plus. Mais non, il y a des clubs de supporters partout et on dit que le public rémois est quand même assez froid.
Oui.
Mais là, on voit par les affluences et par l'ambiance que les gens reviennent et vont suivre leur équipe quand même.
Bon, messieurs, le Stade de Reims, Jean-Pierre, par exemple, le Stade de Reims, c'est un club qui a des valeurs communes avec l'Ange quand même.
Oh, beaucoup de valeurs communes. Oui. Par contre, la différence, c'est que nous, le Racing Club de Lens, c'est un club, c'est un fait social, c'est une région, c'est la vie de toute
une
région.
Ouais.
C'est la vie des mines.
Il n'y a pas ce sentiment-là à Reims. Bon, il y a le champagne à Reims, donc peut-être que bon.
Nous, on a le charbon. Ouais. On avait le charbon.
Ouais, mais le champagne n'est pas trop partenaire du club. Hein.
Le président Germain qui était le président du club.
C'est un
gros producteur de champagne.
Accords. Enfin,
oui, peut-être que ouais.
C'est difficile d'avoir surtout sur les maillots. Alors, ils peuvent pas mettre les noms des champagnes, mais il y a près de 200 partenaires quand même. Donc.
Alors Jean-Pierre, justement, c'est une question que je poserai aussi aux autres intervenants. On dit qu'aujourd'hui, les joueurs ont moins l'amour du maillot. Vous avez le sentiment ?
Écoute, parle.
C'est des mercenaires, ils passent comme ça. Et puis, vous avez le sentiment ?
J'avais un peu le sentiment, mais je ne l'ai pas depuis 3-4 ans. Là.
Oui.
Parce que le club, le président Jean-Pierre Caillot, en a fait un club familial. Et on ressent quand même que c'est un club familial, quoi. Donc, on sent qu'il y a des joueurs très renommés comme Romao, des joueurs comme ça, et on sent qu'il y a une certaine ambiance, qu'il y a une très très bonne ambiance, et j'ai l'impression que les joueurs mouillent le maillot quand même pour leur club. Quoi.
Oui, puis on va rappeler deux finales de Coupe d'Europe des clubs champions, ce qui est maintenant la Ligue des Champions. Quoi.
Et
c'est quand même,
ils ont été champions de France de Ligue 2 l'année dernière, ils ont battu tous les records, donc près de 82 points. Ils ont fait vraiment un festival l'année dernière, quoi.
Mmh. Voilà. Jean-Pierre, donc vous c'est Lens, on l'a dit.
Nous c'est Lens.
Ça arrive comment? Même question que
Lens, bah,
vous êtes bien avec le maillot lensois, quoi. C'est un peu ça. Voilà,
c'est un phénomène de société chez nous. Lens sont les mines. Il y avait beaucoup de clubs qui avaient autour. Lens est un club qui a été créé en 1906 par les mines, comme beaucoup de clubs. Passé en professionnalisme uniquement en 1934. Et à partir de ce moment-là, bah, ça commençait à prendre de l'ampleur. Et puis, pour arriver à, malheureusement, comme on a vu, comme les mines ont arrêté leur activité, ou tout au moins ont perdu un peu plus d'activité dans les années 68-69, arrêter le professionnalisme, on est reparti en amateur pendant 2 ans. Et après, il y a toute une équipe qui est revenue pour relancer le club, avec un monsieur qui s'appelait Gervais Martel en 88, qui lui a remonté le club. La seule chose, c'est que d'un phénomène de société qui existe toujours actuellement, Gervais a essayé d'en faire un club familial, ce qui a toujours été le cas. Et c'est non pas le regret qu'il l'ait fait, parce que on fait toujours les choses dont on a envie avec son cœur. Mais le seul regret que j'ai pour le Rennes Club de Lens, c'est qu'il n'ait pas été appuyé par d'autres personnes. Mmh. Parce que les clubs familiaux, ça n'existe plus depuis les années 90, c'est fini.
Ouais, bah c'est l'époque qui est comme ça. On va quand même dire qu'il a laissé énormément d'argent, Gervais Martel.
Il a laissé énormément d'argent au club. Ouais.
C'était son argent, hein.
Tout à fait. Plus,
hein. C'était pas des actionnaires, hein. Voilà.
Et justement, malheureusement, n'ayant pas d'actionnaires, il fallait bien vivre en autonomie. Et la seule autonomie, c'est Jean-Pierre de Reims parlait du centre de formation. Mmh. Nous avons toujours eu un centre de formation depuis les années 70 qui sort des joueurs tous les ans. Et c'est le centre de formation qui, en fait, fait presque la trésorerie chaque année, puisque il y a besoin d'argent dans le club. Donc on vend des joueurs. Et pour répondre aussi peut-être à la même question concernant l'esprit de famille et tout ça, il est au niveau des joueurs, d'une saison à l'autre, ça va à l'intérieur, à chaque saison, ça va. Mais sur une continuité de 10 ans, je pense que ça n'existe plus dans le football français.
Oui, c'est la mentalité qui a changé. C'est le foot qui a changé, parce que la société a changé, c'est ça, c'est tout.
Tout à fait.
C'est pas le foot qui est pourri, c'est la société, c'est tout.
Le fait aussi qu'on soit obligé de faire de la trésorerie, la trésorerie, malheureusement, elle se fait avec le centre de formation. Donc, il y a des recruteurs qui sont très très forts maintenant pour aller chercher des jeunes de 12-13 ans. On les forme et on sait que les 3/4 de ces jeunes-là, on va les vendre pour...
Oui, de toute façon, c'est l'arrêt Bosman qui a tout...
Tout à fait.
Ouais, qui a tout changé, qui a tout modifié. Ouais. Hein, voilà,
D'ailleurs, il suffit de regarder, j'ai ramené une photo de 68-69, la dernière année que j'ai fait à Lens. Il y a pratiquement 90% de joueurs qui sont de la région. Formés au club de la région.
Maintenant, c'est plus le cas,
Non. Maintenant, non.
Alors, je voudrais demander à Jean-Pierre, il y a un match culte qui reste, Jean-Pierre, dans la mémoire du supporter rémois que vous êtes.
Le match culte, c'est Racing Race. Les Racing Race.
Ah oui.
Moi, j'allais voir au Parc des Princes.
Moi, j'étais pas né, mais il paraît que c'était quelque chose.
Et Reims, c'était à l'époque l'équipe chouchou du public parisien, mais il y avait une ambiance formidable, quoi. Les Racing Race, c'est toute ma jeunesse, quoi.
Ouais, c'était le dimanche après-midi à l'époque, hein, je crois.
C'était le dimanche après-midi, Donc, c'était le samedi soir aussi.
Et comment vous avez vécu la finale de Coupe d'Europe? Les deux finales perdues. Avec Copa qui est passé de l'autre côté.
Moi, je me rappelle surtout d'un Reims Feyenoord.
Oui.
Où les Hollandais donc, ont battu les Rémois de en match aller-retour. Et il y avait les Reims Burnley aussi, mais l'époque des Coupes d'Europe, proprement dit, avec Copa et Fontaine, j'étais encore trop jeune.
Bah oui, trop jeune. Et puis, comme on l'a dit, il n'y avait pas beaucoup de télé à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de médias. Les matchs n'étaient pas trop importants. Fallait écouter derrière le transistor. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que vous n'avez pas connu Reims à travers le transistor?
J'écoutais Europe numéro 1 à l'époque. C'était Europe numéro 1. Donc, les matchs étaient retransmis. C'était du semi-direct, hein, Voilà. Non, mais c'était la bonne époque. Mm-hmm.
Bon, aujourd'hui, c'est complètement différent, Jean-Pierre. Hein. Pareil, hein, ceux qui viennent au stade, qui sont du stade de Reims, ils doivent peut-être beaucoup champenois dans la région.
Disons que j'ai l'impression qu'il y a plus de supporters en province que qu'à Reims. Mais les supporters reviennent quand même. Hein. Les supporters reviennent.
Oui, bien sûr. Voilà. Surtout qu'il y a quand même Troyes qui est pas loin. Il y a tout ça, il y a toute une zone.
Il y a une sacrée rivalité entre Troyes et Reims. Il y a une rivalité.
Il y a une histoire
comme les Reims-Sedan. Et je voudrais préciser une chose. Il y a Reims depuis a été les équipes féminines ont débuté à Reims. La première équipe féminine a débuté au stade de Reims. Et cette année, donc il y a une équipe féminine du Stade de Reims. Elles sont à un point de monter en division 1. Ah, et donc ça va peut-être se passer ce week-end. Les filles sont invaincues. Hein.
D'accord. D'accord, ok. Donc il y aurait deux équipes à Reims.
Il y aurait deux équipes à Reims. Voilà.
Très bien. Jean-Pierre, donc on repart sur Lens. Donc vous, comment l'équipe professionnelle grand public, elle a été connue dans les années 70-71. Hein.
Oui, tout à fait.
Hein, celle qu'on avait dans nos albums Panini.
Oui, exactement. Oui. Hein? 70-71.
Voilà, c'est ça.
Bon, après le choc minier où on était parti en amateur, le professionnalisme est revenu et puis là il y a eu un engouement énorme et petit à petit le club a commencé à... Alors on n'a pas gagné grand chose, les seules choses qu'on ait gagné c'est sur ma casquette, tu peux le voir là, c'est le championnat de France 98 et la coupe de la Ligue 99. Par contre on a souvent été finaliste, quatre fois la coupe de France, battu
notamment par le PSG.
On a fini cinq fois ou six fois deuxième du championnat. Et ce qui fait qu'on a fait quand même quelques Coupes d'Europe avec des matchs mémorables.
Alors, moi, je me souviens d'un match,
Lazio-Rome. Oui, Lazio-Rome.
C'était un match fabuleux, match retour, là.
Ah oui, on avait perdu 2-0 là-bas.
Et ça fait 6-0, je crois, match retour.
Oui.
C'est fabuleux, quoi.
Avec un super Didier joueur Six. Que tout le monde connaissait, Didier Stix, qui avait deux buts. Après, ça a été l'escalade et tout ça. Daniel Leclerc aussi. Et après l'année quand nous avons été champions de France, on est tombé dans un groupe très très dur en Coupe d'Europe puisqu'on avait joué l'AC Milan, le Bayern de Munich et Porto, et on les avait battus tous les trois à Lens. Par contre, on avait perdu tous les trois à l'extérieur.
Alors après il y a eu on y reviendra aussi, mais il y a eu une deuxième époque. Ça a été une demi-finale de Coupe UEFA, je crois, en 2000.
Tout à fait.
Hein, c'est ça.
Ouais, Arsenal. Tout à fait. Et on est le seul club à avoir battu Arsenal à Wembley.
Oui, oui, oui. Voilà, victoire Arsenal, oui, je me souviens. Ouais.
Et tout à l'heure, en dehors des résultats, tu parlais d'affluence chez nous, à part les deux mauvaises années 69-70 en amateur, mais à partir des années 71, on a commencé à tourner entre 25 et 30 000 spectateurs de moyenne. Ouais. En Ligue 1, on tourne entre 30 et 35 000, et on est monté plusieurs fois à 40 000, 45 000, notamment 48 000, stade complètement plein avec un Lens Marseille de la grande époque et tout ça. Et ce qui veut dire qu'en fait les joueurs, certes, s'ils ne sont pas tous du cru de moins en moins, par contre les spectateurs ils sont là, ils sont toujours là.
Mais je crois que
faut savoir qu'à côté on a un potentiel de spectateurs pour Lille qui.
Oui, alors on va en parler, notamment ce lien social, hein, parce que à Lens on est avec le football.
À Lens, on est avec le football. À Lens, on va au football avec les enfants dans les bras.
Voilà, c'est ça.
À Lens, on fait la fête. Et pour avoir
qu'on gagne, qu'on perde, on fait la fête.
Alors, c'est une grande différence chez nous. Oui. Je reconnais ça dans certains clubs. Notamment, j'ai vu ça à Strasbourg. Mais même en Europe, chez nous, on fait la fête. Chez nous, le spectateur, il est un peu moins connaisseur football, mais il fait la fête. Il est là pour s'amuser, il est là pour passer une bonne soirée, il est là pour aider le club, pour applaudir. Même si on perd, il fait la fête. Enfin, faut pas
Je crois que le public lensois a toujours eu la palme du meilleur supporter.
Allez, on envoie la pub et puis la pause musicale.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11. À Rambouillet, 14 rue Chal, et c'est ma fenêtre, votre spécialiste ISO France vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres, stores, volets, portes d'entrée et portes de garage, sur mesure, en PVC, bois, alu et mixte. Et c'est ma fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste et c'est ma fenêtre, 14 rue Chal, à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb loue Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnosticaupluriel.fr.
RVE, vivez votre région. RVE 103.7.
regard dehors, à Angoulême, un chasse-plis Melchior. Paris, Seychelles, découvrir ton corps. Depuis la scène du sombre décor, Lucrèce et Rennes, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose sur nos ronds, ce lilas, le soleil s'endort sur ses chelles, le sable et l'aurore, fleur de sel. Attends-moi, je sors de l'île aux cerfs, l'orage est de l'or pour se perdre. I need you so. You go, wow. I need you so. I won't let you go, wow. I need you so. I won't let you go, wow. I need you so. I won't let you go, wow. Souffrir la mort. Défendre nos torts, et puis se taire, le désir encore. Pour l'hiver, un chaos d'efforts. Sur Saint-Hilaire, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'on se pose sur nos lauriers mayas.
Oui, et une émission que vous pourrez naturellement très rapidement réécouter en podcast, hein, comme toutes nos précédentes émissions. Je voulais simplement saluer l'équipe de boxe française de Jean-Jacques Lenôtre, et puis deux de ses pratiquantes, Chloé Girardot et puis Gabrielle Bailleuil, qui ont été récompensées la semaine dernière par le comité olympique et sportif du département des Yvelines. Et puis saluer aussi donc Cernay-la-Ville, qui a reçu le trophée de la commune rurale la plus sportive, avec également donc le président de la section cyclisme de Poigny-Rambouillet, Olivier Bourdin. Et puis vous dire que eh bien ce week-end il y a une belle manifestation de escalade handi et de vitesse au gymnase La Poterne à Massy. Donc c'est jusqu'à ce soir. Allez faire un petit tour, ça vaut le détour. Alors on va revenir Jean-Pierre donc sur Lens. Il y a un lien social, on l'a dit, c'est on vit avec, hein. Ça c'est.
On vit avec, c'est un club qui est né dans les corons, comme on disait chez nous. C'est un club qui est né dans les corons, qui est né avec les gens des corons, qui est né avec les spectateurs des corons. Et de père en fils, cette tradition des corons n'existe plus, mais cette tradition du Racing Club de Lens dans le cœur existe toujours. Et à l'avance, on ne peut pas avoir un club qui tourne actuellement en deuxième division entre 25 et 30 000 spectateurs, qui a tourné en 2013 en D2 à 35 000 spectateurs de moyenne. Et lorsqu'on était professionnel de 99 à 2010, on tournait entre 35 et 38 000. On ne peut pas tourner avec des spectateurs sans qu'il y ait une accroche sociale, sans qu'il y ait tout est lensois, tout est identifié lensois, tout est comme ça. C'est la fête, les enfants les emmènent au stade, les gens sont un peu moroses le lundi matin, si on a perdu, ils sont heureux lorsqu'on a avancé. Et cette tradition, même si la population a un peu changé, comme dans toutes les provinces françaises, mais cette tradition est toujours restée, et puis on va au stade pour s'amuser, on va au stade pour voir les amis, on emmène les enfants, c'est une joie et tout ça.
Lille, c'était le club des riches, Valenciennes, c'était à peu près comme vous.
Alors Valenciennes, c'était un petit peu comme nous, mais la barrière a été créée très très tôt dans les années 50 entre Lille, où qui était véritablement taxé.
Oui, comme des riches, faut le dire. À l'époque, c'était ça.
Et nous, on était le club pour les terres. Ouais. J'ai des anecdotes malheureuses, parce que quand je jouais à Lens, à 12-13 ans, on allait jouer à Lille, on se faisait insulter, nous, les enfants de mineurs.
Oh là là.
Et bon, alors maintenant, c'est plus difficile, mais il y a toujours.
Oui,
alors, ce n'est
pas toujours.
Oui, oui. Il y a toujours une.
C'était pareil pour les Verts à Lyon, hein. Ah bah, à une certaine époque.
Oui. Bah, puis c'est un peu pareil entre Marseille et puis le Paris Saint-Germain.
Oui, enfin,
ça a été fait par les médias, mais
ça c'est
les normes. Mais il y a aussi la ville de Marseille qui était quand même aussi une ville qui n'était pas très riche.
Nordiste, ça c'est.
Ah, nous c'est très régional, parce que il faut bien penser que l'Olympique Lillois. L'ancêtre du LOSC et l'Olympique Lillois était professionnel 15 ans avant nous. Premier championnat professionnel en 31 était gagné par Lille. 32, et puis d'un seul coup est arrivé le Lens, le club populaire, celui qui commence à gagner. On finissait premier des zones nord, on est monté en deuxième division. Après, par la suite, on a gagné ce qu'on appelait la Coupe Drago. Alors ça, la Coupe Drago, c'était la consolante de la Coupe de France.
C'était
les clubs professionnels qui étaient éliminés en Coupe de France, on l'a gagné 3 ou 4 fois. Par contre, on a perdu 2 fois en finale de Coupe de France contre Lille. Bon, ça arrive.
Alors, je vous coupe parce que, comme promis, on a notre mag golf. On a Fabien Denovan. Fabien, bonjour.
Oui, bonjour Philippe. Comment ça va?
Bah, ça va. Bon anniversaire déjà.
Merci Philippe. Merci beaucoup.
Voilà. Alors, quoi de neuf pour le golf en ce mois de mars?
Ben, en ce mois de mars, c'est le moment de se mettre au golf. Hein.
Oui.
Il fait beau, il fait chaud.
Oui.
C'est vraiment la période idéale pour se rendre dans les golfs, pour tester pour ceux qui ne jouent pas encore. Il y a évidemment plein de choses qui sont faites et qui sont mises en place par la Fédération Française de Golf pour essayer. Donc il faut absolument se précipiter dans les golfs. Et d'autre part, sur la partie, je dirais, beaucoup plus confirmée, c'est un mois important au niveau du golf professionnel mondial, puisqu'il y a des grosses compétitions là qui vont s'enchaîner. Donc un mois de mars dense et un mois d'avril filet tout autant.
D'accord, surtout qu'il y a des beaux golfs dans la région, il faut le rappeler quand même, hein, donc Fabien.
Exactement, il y a de très très beaux golfs. La région est fournie de golfs d'une part prestigieux, d'autre part vraiment adaptés à tout le monde. On est pourvu, on est prêt pour accueillir un maximum de nouveaux joueurs. D'autre part, comme on l'avait indiqué la dernière fois et vous l'aviez indiqué Philippe, il y a le premier mondial du golf le week-end du 11, 12 et 13 avril. Un nouvel événement très très ambitieux et nous sommes ravis d'y contribuer.
Oui, ça monte la jolie, hein, c'est ça.
C'est exactement ça. Et alors là, pour le coup, vraiment tout est dédié pour les confirmer, mais également pour les débutants, parce que c'est vraiment la première fois qu'il y a un gros focus sur venez débuter le golf à ce moment-là. On va vous montrer exactement ce que c'est, puis vous allez en même temps pouvoir participer à tous les avec tous les exposants, avec le matériel, avec les golfs, avec l'hôtellerie, tout ce qui permet de passer un excellent moment dans un golf.
Oui, alors Fabien, pour ceux qui seraient vraiment intéressés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur le site internet de la fédération, de la ligue. Comment ça se passe?
Exactement. Vous allez sur le site de la fédération. Vous tapez dans la rubrique "Je veux me mettre au golf" Et là, évidemment, vous avez des liens qui vous dirigent vers les initiations possibles. Il suffit de vous inscrire. Alors, plus particulièrement, par exemple, dans ma société chez YouGolf, c'est un focus extrêmement particulier où tout est fait pour orienter le nouveau joueur à pouvoir s'inscrire et profiter d'un moment très agréable.
Oui, et puis on le disait, je crois, le mois dernier, hein, c'est ouvert à tout le monde. Hein, y a pas besoin de qu'on soit jeune, moins jeune, grand, petit, c'est ouvert à tout le monde.
De 4 à 100 ans. et on peut même... vous savez, on a dans un de nos golfs le plus vieux joueur français, hein, puisque c'est l'exclusive golf de Courson, qui a 107 ans. Donc, comme quoi, vous voyez, tout est possible.
Un golfeur qui a...
Exactement, ça conserve, conserve.
Absolument, oui. bon, on va finir cette émission. Je vais pas vous laisser donc partir sans parler un peu de vintage, hein, puisque vous venez aussi du foot. Hein, c'est quoi vos souvenirs d'enfance en matière de foot?
Oh là là, mes souvenirs d'enfance. Je crois qu'un des plus beaux souvenirs d'enfance de joueur de foot, c'est alors le premier, c'est évidemment tous mes samedis, d'une part à la Beaugeoire, et oui. J'ai connu la Beaugeoire.
Nantes, oui.
Pour les plus vieux à Nantes. Et ensuite Marcel Saupin, pardon, et ensuite la Beaugeoire. Alors c'était l'équipe avec Vahid Aliodic, avec Dervakarian, avec Anis, voilà. Et il y avait une finale de Coupe de la Ligue hier. Moi j'ai ce but de José Touré en finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Bon certes on l'avait perdu, mais quel but extraordinaire qu'avait marqué ce jour-là José Touré. La manière des plus grands Brésiliens. Donc, je pense que c'est mon souvenir le plus intense de gamin de foot.
Et après, ça a été le golf.
Pardonnez-moi ?
Et après, ça a été le golf.
Et après, voilà, effectivement. Malheureusement ou heureusement, j'ai arrêté le football et pour me mettre au golf. Et c'est ma vie depuis 40 ans. Et elle me ravit tous les matins et tous les jours.
Très bien, merci Fabien, on va pas vous embêter plus, c'est un jour particulier pour vous aujourd'hui. Donc, rendez-vous le mois prochain alors, ok, 28 avril, en studio.
Avec grand plaisir, merci, voilà. mettez-vous au golf, merci Philippe, à très bientôt.
Allez, merci à Fabien, donc vous voyez, Fabien Donovan, c'est un ancien joueur de foot qui s'est converti au golf et qui en vit aujourd'hui, donc vous voyez, il y a aussi des belles histoires. Alors, il y a des grands noms, Lançois, Jean-Pierre.
Ah, il y a très grands noms. Bon, sans aller trop loin, remonter trop loin.
Six, c'est le plus grand nom connu.
C'est le plus grand nom connu, mais par contre, avec un petit peu d'ancienneté, on a eu Marian Wisniewski, la Coupe du Monde 58 en Suède, le plus jeune international français. Il n'avait pas 18 ans quand il a joué. Et tout le monde se rappelle, et mon copain Jean-Pierre en face s'en rappelle, à l'équipe de France à base de Rémois. Ensuite, nous avons eu Budzinski aussi, qui a fait une grande carrière à Lens et qui, après, est parti à Nantes et a joué... était international aussi. On a eu Lèche,
Boudira, enfin bon, il y en a eu.
Georges Lèche, qui lui est parti à Reims pour faire le lien.
Georges Bernard.
On a eu une triplette aussi avec Brisson, Duhereb et Mercuis qui avaient gagné les Jeux Olympiques à Los Angeles.
Ah oui, c'est pas rien.
Six, Vérel aussi, des garçons comme Vérel qui sont partis à Lyon.
Tout à fait.
Et c'est là dont tout à l'heure mon petit regret d'être appuyé par des actionnaires, c'est que quand nous avons été champions de France, en 2 ans on a perdu toute l'équipe.
Ah oui. Toute
l'équipe. Et l'actionnaire actuel n'est pas Lançois, je crois.
Ah non, pas du tout. Pas du
non,
tout.
Non, l'actionnaire actuel, il est comme dans tous les clubs, actuellement il est luxembourgeois.
Alors, Jean-Pierre, ses
nous
valeurs.
Nous avons aussi Lama qui a joué
Bernard Lama.
Tempé dans les buts aussi, qui est international.
Jean-Pierre, ses valeurs inculquées par Lens, on les a retrouvées dans la vie de tous les jours, dans votre vie personnelle, tous les jours, chaque matin encore. Vous vous levez, vous vous dites, grâce à ces valeurs, je suis l'homme que je suis.
Oui, tout à fait. Beaucoup de gens de notre région, et notamment moi, quand on se lève, on se dit on a de la chance déjà de pouvoir se lever en bonne santé. Et puis, on a certaines valeurs qui ne sont pas des valeurs d'assistana. Il faut qu'on avance, il faut avancer.
On ne se plaint pas de son sort, on ne s'amende pas, quoi, c'est ça.
Tout à fait.
Parce que le sport, c'est ça aussi, hein. C'est l'école de la vie, c'est aussi toutes les valeurs qu'on a pu, à travers des modèles. Vous aviez un modèle, vous, bon, vous avez joué avec eux, mais vous aviez un modèle qui vous faisait rêver, que vous regardiez. Bruno nous parlait du joueur de foot qu'il avait côtoyé. Vous, c'était lequel dans les vestiaires lensois?
C'était un peu tout le monde.
Lens
n'était pas très individualiste. C'était surtout un bloc, un collectif. Tout le monde avançait dans le même sens. Bon, je regardais un petit peu plus les gardiens de but, notamment un gardien qui m'a appris beaucoup de choses, puisque quand on est cadet, même si on est cadet du Nord ou international, ben on a à apprendre. C'est qui venait de Paris, qui était Jean Taillandier. Qui a joué 5 ans à Lens. Et lui m'a appris beaucoup de choses. Mais c'est surtout le collectif, la joie. Tout le monde arrivait à l'entraînement 3-4 fois par semaine déjà à cette époque-là. Les entraînements n'étaient pas les mêmes, si on en parle.
C'était moins sérieux, dirons-nous, entre guillemets. Mais c'était aussi l'époque.
Je dirais moins poussé.
Voilà, moins poussé. C'est-à-dire qu'on se prenait moins sérieux, c'était ce que je voulais dire.
Il faut être honnête maintenant, quand je vais à l'entraînement, quand je regarde l'entraînement des gardiens, puisque j'étais gardien, je me dis c'est pas possible, moi je tiendrai pas un quart d'heure, ils tiennent 2 heures. Tous les joueurs, c'est comme ça. Hein. Et la différence aussi, si je peux me permettre, c'est que les entraînements à ces périodes-là étaient beaucoup plus axés sur le physique, un peu moins sur la technique et un peu moins sur la technique collective. Alors que maintenant, pratiquement, tout est axé sur tout.
Alors, avant de donner la parole à Kader, juste un petit mot sur l'époque Giroud. Ça a plombé une grosse partie du club. Oui. Et de la saison surtout.
Hein. Oui, ça a plombé énormément parce que c'était une période où nous avions perdu un entraîneur qui était Gillot, si mes souvenirs sont exacts, formé à Lens et joueur de Lens aussi. Et puis Gervais Martel pensait qu'avec Giroud, qui était très paternaliste dans son club, pourrait perpétuer ce sentiment, enfin cette impression chez nous. Et malheureusement, bon, faut dire aussi à la décharge de Giroud qu'il a eu des problèmes physiques au bout.
Il avait plus l'âge, quoi, peut-être.
Voilà. Il avait plus l'âge non plus et plus la foi.
C'est vrai que Gervais Martel, c'est cette trempe de président, qu'on ne verra plus malheureusement comme Carlo Molinari, comme Loulou Nicolin, quoi. Ou comme Roger Rocher même. Hein.
Mais la grande différence, si je peux me permettre, entre ce genre de président et puis ce qui se passe actuel, c'est que ce sont ils sont paternalistes, ils font énormément. Nous avions un entraîneur, que ce soit avec Muller, qui a été un très bon entraîneur à Metz aussi, et qui est
Joël
chez
Muller,
nous aussi. Chez nous, on a gagné. Et ces entraîneurs, il y avait le président, l'entraîneur, et puis tout un staff autour qui tournait. Alors que maintenant, quand on regarde bien tous les clubs, quels que soient les clubs, il y a le président, effectivement, il y a l'entraîneur, il y a un entraîneur en second qui est pratiquement aussi solide que l'entraîneur.
Un directeur sportif.
Ça veut dire que l'entraîneur n'est pas tout seul. Mais je pense que c'est la grande différence. Un garçon comme Giroud, s'il avait pu être appuyé, si dans l'organisation lensoise, on avait pu avoir ce genre d'organisation, on n'en aurait peut-être pas été là. Mais enfin, avec des
Kader, elle est où cette Coupe de l'Essonne? Elle trône où? Elle repose où?
Elle repose au Pilon.
D'accord.
Au Pilon, après Souffre.
Au Pilon. C'est un café, il faut dire.
Ouais,
au Souffre.
Un café. Tout à fait. Elle est là. Elle repose là-bas. Il y a tous les noms de. Gravés.
Alors, justement, c'est une question. Quand on se lève dans la vie de tous les jours, on dit je l'ai gagné. On vit avec ça toute une vie, quoi.
Quand les gens me voient, ils disent. On a gagné la Coupe de l'Essonne avec ces gens-là.
Oui.
Moi, j'ai 83 ans maintenant.
Ouais. Alors, vous savez. Entre vous, là
On se voit. Ce qui reste. Malheureusement, il y en a qui sont partis.
Vous allez nous rappeler un peu le contexte, parce qu'on disait que c'est vrai, Boussefort, c'est un tout petit village, plus en 71, et qui a été
battu. 70.
D'accord, ok.
70.
Bon, et en 70, vous avez battu une énorme ville qui était Viry-Châtillon. À Gif-sur-Yvette, là-bas.
À Gif-sur-Yvette.
Ouais.
Tout à fait, à Viry-Châtillon, avec une équipe que se compose, malheureusement, il y en a qui sont partis.
Oui, bien sûr. Alors le match il s'est passé comment?
Le match il s'est passé, je me rappelais toujours, parce que la première année, C'était en 69.
Oui.
On était en demi-finale.
Ah, quand même. Ah oui,
d'accord. En demi-finale.
Vous avez... Ce qui est encore plus dur, hein, d'en mettre ça...
En demi-finale. Ouais, en demi-finale contre Viry-Châtillon.
Ah, oui. Ça a été
contre Viry-Châtillon.
Ça a été les retrouvailles après.
On les menait 3-1.
Ouais.
À la mi-temps.
Ouf. D'accord. La fin du démonfort dans le vestiaire,
la
alors.
Fin, la fin de temps réglementaire, 3-3.
D'accord. Ah, oui. OK. Ouais.
Ah ben, on fait les prolongations.
Ouais.
Toujours 3-3. Ouf. 3-3, toujours 3-3.
Ouais, ouais.
Bon. Et puis, après, on est passé au pénalty.
Ouais. Ouais.
Les pénaltys, on marque. Eux, ils marquent, on marque. Bon, tout le monde marque leur pénalty. On arrive au dernier pénalty. C'était Nuno Kusone. C'est un joueur, malheureusement, qui nous a quittés. Il nous a quittés à 40 ans.
Mm-hmm.
40 ans.
Mm-hmm.
Ils tirent le pénalty. Ils disent que le goal, il a bougé.
Ah, là, là.
Avant. Bon,
donc,
il le retire.
Retiré.
Ouais. Il le retire. On le loupe.
Ouais, bah oui,
bon,
bah oui.
On le loupe, malheureusement.
Bah oui.
Bon, c'est Viry-Châtillon.
Pas de finale.
En finale.
Et donc, rebelote la semaine, l'année d'après.
L'année d'après.
Ouais. Donc, il y a un avantage psychologique pour Viry.
Oui. Hein, voilà. Psychologique.
Ouais, ouais, ouais.
Oui, c'était à Gif-sur-Yvette.
Mm-hmm.
Alors, on arrive. Bon. On s'entraîne.
Ouais.
Et puis. D'un seul coup, le Platzek, j'ai parlé avec Platzek, il entraînait Viry-Châtillon à cette époque-là.
Mm-hmm.
Entraîneur-joueur.
Oui, oui.
Il vient, il me dit, tu sais Kader, l'année dernière c'était un accident, mais cette année, ça se passera pas pareil.
C'est pour mettre la pression, ça.
Oui, c'est pour ça, mettre c'est la pour pression, me...
bien, sûr,
du métier.
Bien sûr.
Bon. Moi, j'ai rien dit, j'ai pas répondu,
ouais, pareil,
j'ai rien dit.
Ouais, ouais.
Bon. Alors, on y va, ouais. On fait le son. 3-1, on les bat au 3 réglementaire.
C'est net.
3-1, net, et bah, ils sont bavés. Alors, on les a battus 3-1.
Quelle a été leur réaction? Il n'y a pas eu un peu de suffisance de leur part?
C'est de leur part, ils étaient trop vexés.
Ah,
plus vexés que nous.
Ah, bah,
parce
oui.
que nous, on avait tout à gagner,
oui,
rien
à
perdre.
Quoi. Ouais, ouais.
Voilà. Mmh. Mais finalement, bon, ils étaient... Bon,
alors, hein,
ouais. À chaud, ils étaient vexés.
Ah
mais
bah,
après...
Oui, oui. Alors moi, je veux savoir comment ça s'est passé après.
Ouais. Ça s'est passé après. C'est la fête.
La coupe, elle revient à Brice, escortée par des motards.
Oh, bah,
les Brissois sortent et puis on monte la coupe de l'Essonne.
Le plus heureux de tout le monde... C'était le trésorier et le président.
Ah bah oui.
Parce que Auguste Lebouille, il a pleuré.
Bah oui.
Il a pleuré. Mmh. Il a pleuré devant nous comme un bébé.
Mmh. Alors, si ouais. vous connaissiez le personnage, c'était quand même un sacré bonhomme.
C'était un sacré
Imaginez
bonhomme.
Imaginez un bonhomme d'à peu près 2 mètres, 2,05 mètres. Certainement plus de 100 kilos, se mettre à pleurer.
Ah ouais.
Imaginez
ah ouais.
un petit peu.
Écoutez, alors...
Bon, la fête a été belle quand même.
Elle a été belle.
Donc il a été pleuré.
Non, on a fait
alors,
une
entre
fête.
Nous, vous avez fêté ça où
On a fêté ça.
Au café ou au
non, au restaurant,
ouais.
chez le,
oui.
le trésorier.
Oui, oui, d'accord.
Le trésorier, c'était.
Monsieur Drahonet.
Là où on a coupé.
On a fêté ça. De toute façon. On a, pour la moindre chose,
ouais.
il faut qu'on fête.
Bien sûr, bah, c'est normal, ça reste oui, une fois dans une vie. Et la population locale, alors elle est sortie, on a parlé que de vous,
étiez
des dieux, des héros.
Ah oui.
Imaginez, vous auriez une radio comme la nôtre.
À l'époque, si on avait une radio, elle serait perforée. c'est exactement. Et puis, les joueurs, il y en avait des sacrés joueurs comme Roger Coppi. C'était un joueur qui pouvait jouer en pro. Mmh. Mais c'était sa ville natale.
Ouais.
C'était sa ville.
L'amour du maillot.
L'amour du maillot. Voilà.
Voilà, c'était... Ils étaient tous du coin ou ça venait d'un peu plus loin?
Il n'y a que moi qui étais de Rambouillet.
Ah bah oui.
Il y en avait un, il était de Dourdon.
Oui.
Et puis tout le reste, c'était... J'ai les noms, je peux les citer.
Allez,
ouais, on citera, j'ai les noms. Il y avait... il était de Limours. C'est Gerbert. Gerbert. Et il a habité Nonokissonnier. Voilà, Nonokissonnier. Il était de d'Épernon.
Ah oui, en plus.
De l'Eure-et-Loire.
De l'Eure-et-Loire, la part derrière. Ouais, ouais.
Moi, j'étais de Rambouillet.
Ouais, ouais.
Malheureusement, comme je dis, c'est là où j'ai connu ma femme.
Bah, c'est mieux. Ouais, ouais.
Non, c'est, bah, je dis malheureusement entre nous. Ouais, ouais. Je dis malheureusement entre nous.
Elle écoute peut-être.
Non, mais ça se trouve, elle écoute. Non, mais j'ai connu ma femme. Et c'est là où j'ai connu ma femme, et depuis ce temps-là, je suis resté à Brice.
D'accord.
Je suis
Brice. Pourquoi Brice quand on est à Rambouillet?
Parce que c'est quand on était à Rambouillet, c'est pour ainsi dire, c'est ma deuxième ville natale pour
oui,
moi.
Oui.
Pour moi. Hein.
Oui, parce que moi, quoi.
le jour que je suis venu à Rambouillet, ils m'ont tendu les bras. Alors, c'était le président, c'était le club de Rambouillet, parce que je jouais à Rambouillet, et à l'âge de 36 ans, je suis venu à Brice. À 36 ans.
Ah, vous avez gagné la Coupe de l'Essonne
à 36 ans.
Oh. Ça, c'est une belle longévité, ça.
Ah oui.
Ça, c'est fabuleux.
À 36 ans.
Ouais.
Je gagnais la Coupe de l'Essonne, mais j'ai joué en division d'honneur régional. Je jouais en division d'honneur régional. À Rambouillet, et puis après 36 ans, j'étais à la porte de sortie, quoi, presque.
En tout cas, c'est une belle fin de carrière.
Ouais.
Juste, on envoie la pub, hein,
ouais,
ouais. Cette fois-ci, la deuxième pause musicale,
ouais.
Et puis on reparle de votre succès.
D'accord.
Hein, okay,
d'accord. D'accord.
Bienvenue au San Lazzaro. Venez déguster ses pizzas et le meilleur de la cuisine italienne dans un cadre convivial et accueillant, agrémenté d'un jardin d'hiver ou à emporter sur commande. Restaurant San Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 05 77. Ouvert tous les jours sauf dimanche de midi à 14h15 et de 19h à 22h15.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération, à Sonchamp.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold. Le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté fait maison. Boissons comprises et soirée night club. Le dimanche à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison. Avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville. Réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
RVE, vivez votre région. RVE, 103.7.
Why? And this baby will be home.
that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. We'll be old and think of all the stories that we could have told.
Donc vintage qui va s'achever. Bruno, bah, on le connaît, il est déjà venu souvent parler des Verts. Ça a marqué ton époque avec alors, aussi Bruno Brisseforge.
Tu parlais de valeurs effectivement oui. Tout à l'heure. Bah, les valeurs, moi je les ai eues, c'est des gens comme Kader qui me les ont inculquées. Oui, oui. Parce que j'étais gamin, moi en 70 j'avais 9 ans.
La façon dont il parle de foot. Hein,
voilà, donc je vais nommer aussi d'autres joueurs que j'ai croisés, donc les frères Kopi, Nourdine Boubacar que moi j'avais en tête parce que je le voyais marqué. C'est quelqu'un qui aurait pu jouer au FC Nantes, hein, il a refusé d'aller en pro. Des frères Brion, des gens comme ça. Je me rappelle des derbies entre Brice et Tampes. Où il y avait Edwige Raduel qui était un ami de Marius Trésor du même village, les frères Gorecki. Voilà, tout ça c'est des noms qui m'ont marqué. Et puis bien sûr après le monde professionnel avec l'épopée des Verts. Mais quand tu t'en rappelles Philippe, on a gagné un tournoi, c'est marrant puisque Kader parlait d'une finale gagnée en Coupe de l'Essonne à Gif-sur-Yvette. Je sais pas si tu te souviens quand on jouait nous, on a dû, à peu près à la même époque, on avait gagné aussi ce tournoi à Gif-sur-Yvette. Tournoi qui maintenant est un tournoi international.
Comme quoi, il y a des symboles, hein.
Tout à fait, tout à fait. Le club de Brice, à l'époque, le SBF, était quand même un club important de la région et du département de l'Essonne. Et moi, toutes ces valeurs, elles m'ont été inculquées par des gens comme Kader. C'est pour ça que j'ai tenu à les... alors rendre hommage entre les
non mais c'est bien
demandant, demandant de faire
ce sont des fidèles auditeurs voilà. Kader Rambouillet et puis Jean-Pierre Brice et puis les deux Jean-Pierre Brice mais bon ce sont des fidèles auditeurs qui nous écoutent tous les dimanches voilà. Et puis ils sont venus parler c'est bien c'était bien de témoigner de ces valeurs alors, du sport qu'on peut avoir à travers sa passion.
La nostalgie c'est vrai ne pas vivre dans le passé
non.
Mais il faut aussi s'en servir pour ne pas rééditer les mêmes erreurs et dans le monde du football je donne ce conseil-là, regardez un peu ce qu'ont fait les anciens, ne rééditez pas les mêmes erreurs, mais servez-vous-en.
Bah c'est exactement comme nous pour les médias, hein, quand les jeunes journalistes nous parlent, voilà, ils n'ont pas tout inventé. Voilà, maintenant il faut vivre avec son temps aussi.
Bien sûr.
Voilà. Hein, donc, ouais. Jean-Pierre, un dernier petit mot sur cette émission. Vous reviendrez pour Tribune Foot ? Oui, là, on commencera avec du foot. Hein.
Tout à fait. Dernier petit mot, c'est un souhait. J'espère que même si cette année on manque de régularité et puis on est un petit peu de faiblesse mentale, mais j'espère que pour ce magnifique public toujours fidèle, on remonte en L1 assez rapidement. Et puis...
L'autre Jean-Pierre, dernier petit mot, faudra revenir parler aussi du Stade de Reims.
Oui, que le Stade de Reims termine le championnat à une très bonne place.
Bruno, on va vous remercier à nouveau.
Bah écoutez, hein, moi c'est ouais, des gens comme Kader, Jean-Pierre et Jean-Pierre que je remercie d'avoir participé à cette émission. Et merci à toi Philippe.
Et merci à Kader.
Et merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous aussi.
Merci. Hein,
et puis de m'avoir reçu.
Eh ben revenez de temps en temps quand vous voulez, voilà, pas de problème. Hein,
voilà. Pour te remercier, voilà.
Ouais. Je ferai un c'est gentil. Ah bah, je vais la garder.
Et puis comme j'avais dans la poche un porte-clés, comme j'ai vu tes clés.
C'est sympa. Merci aussi à Bastien d'avoir mené demain de maître cette émission. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Ça sera Tribune Foot, hein, premier dimanche du mois. Et là, on commentera l'actu foot. Bon dimanche à toutes et à tous. Restez fidèles sur l'antenne d'Herbeux. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, nous sommes la première génération à savoir que nous détruisons le monde. Extinction des feux pour éviter l'extinction des espèces. Hier soir, entre 20h30 et 21h30, l'opéra de Sydney à la Tour Eiffel a plongé dans l'obscurité à la demande de l'ONG écologiste WWF pour la 13e édition de l'opération L'Heure pour la Terre. Selon le dernier rapport de cette organisation, de 1970 à 2014, les populations de vertébrés ont chuté de 60% au niveau mondial et de 89% dans les tropiques. On y voit plus clair dans l'obscurité. On rallume la lumière sur les gilets jaunes dont la 20e journée de mobilisation a presque été une routine. On attendait le pire. À Bordeaux, par exemple, ils n'en furent